session.
Tuje ne bitu pabisato
ya kuyina mukanda ewu.
Hier nous avons la première.
Wa makele la tokom ne tutu pacha kun pala.
Aujourd'hui nous avons la deuxième.
Le lutu ne tutu pachi biji.
Et demain la dernière.
Makele la ya yoela koya nkomba kubwalo ebu.
Petit résumé de ce que nous avons vu hier.
Uje muchu koso wa bitoko na makele la.
Nous avons vu la fin de la vie de David. Et le début du règne de Salomon. Nous avons vu que Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et il a répondu l'intelligence et la sagesse. Pour bien gouverner le peuple. C'est un bel exemple pour nous de rechercher de Dieu le discernement des choses. Et Dieu lui a donné cette sagesse, cette intelligence. Et en plus, beaucoup de richesses. L'œuvre principale de Salomon, c'était la construction du temple. David avait déjà préparé plusieurs éléments. Et Salomon a construit le temple. Environ deux fois plus grand que le tabernacle. Avec l'aide, il l'a construit de Hiram, le roi de Tyr. Qui étaient des constructeurs. Ils savaient surtout bien couper les grandes poutres de bois des cèdres au Liban. Salomon a construit ensuite son palais. Plusieurs palais. Il a été un scientifique. Il a étudié les choses de la nature. Les animaux aussi. Il a été aussi un homme de lettres. Qui a fait des poèmes, des proverbes. Sa gloire a rayonné sur les pays aux alentours. Il a reçu notamment la visite de la reine de Sheba. Il a été impressionné de sa gloire. Malheureusement, à la fin de sa vie, comme il avait pris beaucoup de femmes, notamment des femmes étrangères, ces femmes n'ont pas suivi le vrai Dieu. Elles ont apporté leurs croyances idolâtres. Elles ont fait des hauts lieux d'hôtels idolâtres. Et petit à petit, Salomon, qui s'était attaché à ces femmes, à la fin de sa vie, il a suivi une partie de cette idolâtrie. Il a provoqué à colère Dieu, qui a annoncé que le royaume serait divisé. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour bien comprendre maintenant cette division, c'est important que l'on ait des notions de géographie. Géographie des pays bibliques. Alors, plusieurs d'entre vous, ils ont aussi, à la fin de leur Bible, des cartes de géographie.
Si vous avez la Bible,
si vous avez la Bible, Ceux qui ont des cartes, ils peuvent les ouvrir. La carte du royaume divisé. Alors, ce n'est pas la carte générale de l'Orient.
Ce n'est pas
la carte des
12
tribus. Ce n'est pas non plus la carte au temps du Seigneur Jésus. Mais si vous en avez une, c'est la carte du royaume du nord et du royaume du sud. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre la carte des tribus d'Israël. Alors, nous sommes ici à Kananga. La République démocratique du Congo. Qui est assez au centre de l'Afrique. Nous remontons à travers le
Sahara.
Nous arrivons au bord de la mer Méditerranée. Ici il y a le Maroc. De l'autre côté de la mer, il y a l'Espagne. Ici il y a la Tunisie. De l'autre côté de la mer, il y a l'Italie, la Sicile. Ici il y a la Libye. De l'autre côté de la mer, il y a la Grèce. Ici il y a l'Égypte. De l'autre côté de la mer Méditerranée, il y a aujourd'hui c'est la Turquie. Mais à l'époque, ce n'était pas la Turquie. C'était principalement des populations grecques aussi. Et maintenant nous arrivons au pays biblique. Le pays d'Israël. La mer de Galilée, la mer morte, ici nous avons Jérusalem, au nord, au bord de la mer, il y a la Phénicie, il y a le Liban aujourd'hui, et ici nous avons la Philistie, le pays des Philistins. Aujourd'hui, c'est la bande de Gaza. Ici, nous avons l'Arabie. Nous avons l'Irak et la Syrie. Et la Perse, l'Iran. Maintenant, nous nous rapprochons comme un zoom de caméra. Et nous avons le pays d'Israël. Nous retrouvons la mer Méditerranée. En haut, la Phénicie ou le Liban. C'est là qu'il y a la ville de Tyr. Que nous avons vu hier. Et son roi était
Hiram,
qui a beaucoup aidé Salomon à construire
le temple.
Notamment grâce au bois de cèdre.
Vous l'avez déjà vu là, au Mitchimimpe, il y a vu, il y a cèdre, il y en a.
Il y a dans les hautes montagnes du Liban.
Il y a le Mukuna, wa Mujitoule du Liban.
Ici, nous avons les Philistins.
Alors, tu peux dire qu'on a la Pélechette.
Ici, plus loin, nous aurions l'Égypte. Et nous retrouvons la mer morte. Le Jourdain. La mer de Galilée. Appelé plus tard le lac de
Génézaret.
Au nord-est, il y a la Syrie. Avec la capitale Damas. À l'est du pays d'Israël, il y a Amon. Au sud-est, il y a
Moab.
Au Au sud, il y a Edom.
Ni Edom.
Toutes ces populations vont être souvent en conflit avec Israël.
Bisamba byonso bitu ibanu se lebi bya kajumi tsale mu jufuna kana ni Israël.
Les Philistins.
Bena fi fene chete.
Edom.
Bena Edom.
Moab.
Bena Moab.
Amon.
Bena Amon.
La Syrie.
Bena Syrie.
Beaucoup en conflit avec
Israël. Babuni ba kajumba bunda Israël. Vita. Babunende bu vita.
Pas tellement la Phénicie ou l'Égypte.
Kajina na 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 kwa bena Egypte do de bena
Alors David et Salomon ont régné sur l'ensemble du pays d'Israël.
David C'est-à-dire
qu'ils vont régner sur ce pays jusque depuis le Liban jusqu'au fleuve d'Égypte qui est par là. Il y aura une frontière naturelle avec les deux mers et le Jourdain. Et à l'est du Jourdain, il y a les deux tribus ennemies qui avaient voulu rester ce côté. En plus, la puissance de David et de Salomon. Vont faire qu'ils auront une domination aussi sur Edom, Moab, Ammon et la
Syrie.
Ils devront payer des impôts à Salomon. Et avec la Phénicie, il y a une alliance, nous avons déjà vu, avec Voilà, maintenant nous retournons à notre texte biblique.
Après tout ce qu'on a pour nous fondé et tout, il y a un temps de Wanzan.
Alors, nous avions vu la fin du règne de Salomon. Maintenant, Salomon va mourir.
Salomon,
et il y a son fils Roboam qui va régner. Il est intronisé roi. Nous pouvons lire 1 roi 12.
Versets 4
et 5. Alors nous avons vu que à la fin de sa vie, Salomon s'est éloigné de Dieu. Ici nous voyons en parallèle qu'il était devenu dur avec des impôts pesants sur le peuple. Pourtant il était très riche. Ce n'était pas nécessaire. Mais on observe aussi aujourd'hui que des fois des gens qui sont très riches sont aussi durs avec leur contrôle de l'argent.
Et
c'était ce qu'était devenu Salomon. Alors les anciens du pays viennent vers le jeune roi Roboam. Et ils vont lui donner le conseil d'alléger les impôts. Ils lui disent comme ça, le peuple va apprécier ton règne. Alors Roboam, il écoute les personnes âgées d'abord, mais il ne prend pas encore de décision. Après, il va demander aux jeunes de venir, des jeunes qui avaient des responsabilités déjà dans le royaume. Aussi ses amis avec lesquels il avait grandi. Malheureusement, les jeunes lui disent non, il faut montrer ta force et ton pouvoir. Montre que tu as de la force et deviens encore plus dur. C'est quelque chose que nous connaissons aussi à notre époque. Et qu'est-ce que va faire Roboam devant ces deux conseils contradictoires? Malheureusement, il va écouter les jeunes gens. Et nous voyons ce qu'il a dit dans sa décision qu'il va communiquer au peuple. Et nous lisons le verset 11. Et encore le verset 13. Malheureusement, nous voyons que le roi a choisi la voie dure. Il a répondu très durement au peuple. Avec en même temps beaucoup de vanité. Malheureusement, il n'a pas écouté le conseil des anciens. Les anciens, ils ont l'expérience de la vie. Ils savent comment va réagir le peuple. Mais les jeunes, ils sont souvent un peu prétentieux. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils savent mieux faire que les âgés. Ils veulent montrer leur force et leur puissance. Et malheureusement, Roboam les écoute. Nous lisons la conséquence au verset 20. Excusez-moi, d'abord le verset 19 et 20. Eh bien, nous voyons la conséquence. Les 10 tribus du Nord se rebellent contre la maison de David, c'est-à-dire le royaume de Juda. Ce qui va devenir après le royaume de Juda. Et ils se choisissent un roi qui s'appelle
Jéroboam.
Jéroboam, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de capacités. Et déjà, Salomon lui avait donné des responsabilités. Mais comme il voyait qu'il prenait du pouvoir, Salomon avait voulu le mettre de côté. Salomon avait même cherché à le faire mourir. Salomon avait compris qu'il y avait un danger pour son pouvoir là. Alors Jéroboam avait fui en Égypte. Quand Salomon meurt, Jéroboam revient à
Jérusalem.
Et à ce moment-là, c'est le pays d'Israël du Nord qui lui dit, viens être notre roi. À ce moment-là, Roboam, il veut empêcher la division. Il prépare l'armée d'Israël pour faire la guerre au Nord. Et ensuite, la parole de Dieu vient à un homme de Dieu, nous n'allons pas tout lire le détail,
parler
à Roboam. Lui dire, il ne faut pas faire la guerre civile. C'est son beau-frère. Il faut retourner chez soi, les soldats. Parce que cette division vient de Dieu. Et ils ont écouté cette parole du prophète. Et ils n'ont pas fait la guerre. Et c'est pour ça qu'alors Jéroboam est devenu le roi au nord.
Jéroboam
a continué au sud. Alors le royaume va se diviser environ comme cela. Ici, ça va devenir le royaume de
Juda.
Et puis le nord, ça va devenir, on va dire simplement le royaume d'Israël. Juda était une grande tribu. Avec la capitale
Jérusalem.
Et la petite tribu de Benjamin est restée avec
lui.
Ça fait deux tribus pour le royaume de
Juda.
Au nord, il y a les 10 tribus qui
sont
séparées.
Jéroboam
va être tout d'abord à Sichem. Après, la capitale va être à
Samarie.
Maintenant, Jéroboam a peur que son royaume ne va pas subsister. Il ne fait pas confiance à Dieu. Il lui avait dit qu'il le suivrait s'il suivait l'Éternel. Jéroboam, il dit tout le monde qu'il va adorer au temple à Jérusalem. Donc ils vont continuer de respecter la royauté à
Jérusalem.
Après quelques temps, ils ne vont plus me respecter. C'est une réflexion humaine. Alors il va faire quelque chose de très mauvais. Au nord d'Israël, il y a une ville qui s'appelle Dan. Il va mettre là-bas un hôtel avec un beau
d'or.
Allez adorer là-bas. Et au sud, à Bethel, il va faire un deuxième
bonheur.
Et
Et comme ça, il dit à ses tribus, adorez ou bien Adam ou bien Bethel, ce qui est le plus près. Mais n'allez pas à Jérusalem.
Vous devez amener ça à la vie où il est. Il nous a souillé pour dans le bois pour qu'il aille où il est pour faire des liens. Il a dit qu'il y a des seuls, mais quand il y a des seuls.
Alors ça, c'est une chose qui a fortement déplu à Dieu.
À ce sacré Dieu, tout le monde, tout le monde, mais je suis pas des âmes.
Malheureusement, les rois qui vont suivre en Israël ne vont pas détruire ces sanctuaires.
Il y a ça, j'ai dit, par exemple, je ne vais pas vous donner un peu de temps, mais je ne suis pas de la vie.
Ils vont garder cette idolâtrie.
Alors ça, le problème, c'est de l'aide ou à Jishimao.
Il veut donc être indépendant du royaume du sud.
Bah vous basse le bobo bika le mobudi kadiji ni buko keshe buko ko sud.
Et lisons en rapport avec cela les versets 26 et 28 de chapitre 12.
Bah tu dis à nous chapitre 12 nous ibiji verse wa makunya biji le muisambo mwana wa biji na mwana mutekete uje tushaji kele bwalu ebo.
Yanoba na wakamba mushima wangi. Katataka bukelenge ne bukinane.
Jusqu'à
28. Oui,
voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer, la création de ces deux centres idolâtres avec les veaux d'or.
Je demande tout ce que vous pouvez en faire, moi, quand je m'attaque, ni bitendele bibibiji bya ngombe, ngombe mweza muwoko, bya kaji batendele bibisamba jikumi bya Israel.
Celui du sud à Bethel va être détruit seulement 300 ans plus tard.
Kajewo wokubuchika mu Bethel, bakaloku mufula bijimumane ku fitan kama Yisat.
Par le roi Josias.
Kujie fumu wabo Josias.
Maintenant je profite de vous faire un petit conseil de prendre le syllabus où vous voyez bien la partie qui change.
Wane tujukene bwane tujukene kutufesha mu belu mukeso bwa fatika le bikalene jibejeje.
La première page, vous avez un coup d'œil sur un roi.
Nous ne battons il est tout à fait pas le sujet. Dis
vous voyez mort de David, croissance de Salomon, puissance et déclin de Salomon.
Tu dis tout mona le fou la David ne beaucoup que je vois Salomon ne beaucoup le ne du coup Luca ya Salomon.
Après, vous voyez royaume divisé.
Avec tout le monde, c'est tout petit. Londa, vous le croyez, si vous dites, vous tapez Luca, vous calez, vous dites, vous tapez Luca.
Division du royaume, plusieurs rois.
Tout le monde, vous calez, vous tapez Luca, vous calez, vous babouni, vous dites, vous avez un pingé, vous croyez
ça. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de un roi.
Ah, mon tableau est mon, pas toi, écoute, allez, nous, 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 nous,
ensuite, Roboam va mourir.
Roboam va mourir.
Et malheureusement, beaucoup de mauvais rois vont se succéder. Nous allons pas voir dans les détails, chacun peut lire la suite.
Ils
sont mauvais surtout parce qu'ils sont idolâtres.
Puis
va arriver un roi qui va jouer un rôle important. Qui s'appelle Akab. Il va faire une chose grave. Nous avons parlé hier de l'importance de ne pas marier quelqu'un qui n'est pas croyant.
Ah, il m'a quitté le monsieur à tout bâcler le tout bâcler le bolu pour aller qui imbibe pour voir que là mon truc est moi na qui t'as bougé toi.
Non seulement il va épouser non
croyante, mais
il va épouser une adoratrice de
Baal.
Peut-être même une prêtresse de Baal.
Ça
va être une femme très méchante. La reine Jézabel. Le royaume à ce moment-là va se mettre à
Samarie,
qui sera la capitale du royaume du Nord.
Et
Jézabel va bâtir un temple pour faire le culte de
Baal à Samarie.
Elle va faire beaucoup de sorcellerie et de divination. À ce moment-là, la situation du peuple d'Israël est très grave. Mais Dieu ne les oublie pas. Et il va envoyer un prophète. Il y aura plusieurs prophètes. Mais surtout un grand prophète, c'est
Élie.
Il vient de Galad.
Galad
est parti à l'est du
Jourdain.
Nous avons vu hier un rapport avec la prière dans l'épître de Jacques. Il a dit que Élie était un homme comme nous avec des faiblesses. Mais il a prié avec beaucoup d'instance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Nous savons que quand il n'y a pas de pluie longtemps, ça crée des problèmes pour les cultures. Et là, il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie très longtemps.
Et
il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Alors c'était une catastrophe pour le pays. Nous pouvons lire au chapitre 17,
les
versets
1 à 4. Élie réalise que si le peuple d'Israël est dans la sécheresse, il va réfléchir sur ce problème. Il espère qu'ils vont revenir vers Dieu. Alors il va prier beaucoup et Dieu va répondre. Il y aura cette sécheresse terrible. Naturellement, il a peur pour sa vie. Dans le sens, il a confiance en Dieu, mais il sait qu'il doit faire attention. Alors, il écoute la parole de Dieu qui va le mettre en sécurité. Il va partir à l'est.
et se cacher près d'une petite rivière qui s'appelle Kérit, que nous venons de lire. Pour le moment, il y a encore de l'eau dans cette petite rivière. Donc il peut boire. Et Dieu va même utiliser les corbeaux pour lui apporter à manger. Et ça va durer un certain temps comme ça. Nous voyons, nous n'allons pas tout lire, mais au verset 6, il
lui apporte
les corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Mais au bout de quelques temps de sécheresse, la petite rivière, elle n'a plus d'eau.
Alors
il faut partir. Alors Élie va faire un voyage. Il suit la parole de Dieu. Qui lui indique... Il va
lui
partir
quelque part.
Il va partir au Liban. Dieu lui indique une dame qui est veuve. Il lui dit va vers elle. Et ça va être pour cette pauvre veuve. Une bénédiction. Lisons les versets 7 à 9. Toujours 17. Alors cette femme est très pauvre, elle a juste encore un petit peu de farine, un petit peu d'huile.
Et
cette femme voit arriver Élie qui lui demande à manger.
Elle
lui dit, mais j'ai presque plus rien. Je vais faire un petit gâteau pour moi et mon fils et après nous allons mourir.
Et
il lui dit, il ne faut pas avoir peur. Mais fais-moi d'abord un gâteau à moi. Alors cette femme, elle est à l'épreuve. J'ai déjà presque plus rien pour moi et mon fils et je dois faire à toi un gâteau. Elle est mise à l'épreuve. Elle va le faire pour
Élie.
Alors cette femme est un exemple de foi pour nous.
Aussi
quand nous sommes dans la difficulté, de donner la priorité aux choses de Dieu. Parce que Élie représentait la parole de l'Éternel. Ensuite, nous allons lire le verset
16.
Oui. Alors nous voyons que il y a quelque chose qui a été incroyable qui s'est passé. Elle a fait, la femme a fait le petit gâteau pour Élie avec la fin de l'huile et la fin de la farine. Et quand elle est retournée au pot de farine, il y en avait de nouveau. Elle est retournée à la cruche d'huile. Il y avait de nouveau de l'huile. Alors elle a pu se faire un gâteau pour elle et son fils. Le lendemain, il y avait de nouveau de la farine et de l'huile. Il ne s'est pas épuisé de quoi manger. Alors, c'est un exemple pour nous de faire confiance à Dieu pour qu'il nous aide. En lui donnant d'abord la priorité. Lisons maintenant le verset 18. Une autre épreuve arrive. Elle a donc un fils et le voilà qu'il tombe malade et qu'il va mourir.
Il est dit
qu'il est juste pas mort.
Et
la femme fait un reproche à Élie. Elle lui dit quelque chose de spécial. Est-ce que tu veux me rappeler mon iniquité, mon mal, mon péché? Alors la parole de Dieu ne nous dit pas quel était le péché de cette femme.
Mais
autrefois, probablement qu'elle avait fait un péché grave. Qui maintenant lui revient en mémoire. Peut-être qu'il y avait un lien avec son fils qu'elle avait eu de manière pas correcte. C'est une supposition, mais comme elle fait elle-même le lien entre la mort de son fils et son péché, on peut imaginer qu'il y avait un
lien.
Alors nous voyons que Dieu, par l'intermédiaire d'Élie, fait réfléchir cette femme. Et nous n'allons pas regarder tous les détails. Mais en réalité, il va faire revenir par la puissance de Dieu le Fils à la vie. Il va se coucher sur lui comme s'il s'identifiait à lui. Il va faire cela trois fois. Et le fils va se réveiller, revenir à la vie. Il sera guéri. Et Élie va le remener vers la femme. Et la femme, au verset
24,
donc nous voyons là que cette femme a eu une expérience spirituelle importante. Il y avait ce péché grave qui était enfoui dans sa mémoire. Qui n'était pas confessé par réglé. La présence d'Élie va lui faire mettre en ordre les choses. Il a reconnu devant Élie, donc d'une certaine manière devant l'homme de Dieu, qu'il y avait un péché. Il a dit mon iniquité. Il y a peut-être des péchés anciens que nous avons négligé de confesser. Et ça peut arriver que aussi Dieu nous rappelle cela. Alors il n'est pas nécessaire de recevoir une punition. Surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur Jésus a déjà payé pour nos fautes. Mais s'il y a des choses anciennes que le Seigneur nous fait remonter à la mémoire, parce que nous faisons des progrès spirituels, eh bien, il est nécessaire aussi de les confesser au Seigneur. Et nous avançons dans la croissance de notre vie. Comme cette femme a fait en reconnaissant qu'il y avait Dieu derrière les paroles d'Élie. Maintenant, nous arrivons à un autre chapitre important de ce livre des rois. C'est le chapitre 18. La situation du pays est catastrophique. Il y a plus d'eau, et puis les chevaux, même les chevaux du roi, ils vont mourir les uns après les autres. Alors le roi Akab, il va envoyer son intendant, un responsable du palais. Va chercher de l'eau, si tu trouverais de l'eau quelque part pour les chevaux. Et voilà que l'intendant qui s'appelle Abdias, va croiser Élie sur le chemin. On peut lire au verset 4. Nous voyons que cette méchante reine Jézabel non seulement elle avait amené le culte de Baal en Israël et à Samarie, mais elle faisait mourir l'un après l'autre les prophètes de Dieu. Les sacrificateurs qui cherchaient à rester fidèles. Et nous voyons que Abdias, il était tout près du roi et de la reine. Il a utilisé sa position importante dans le gouvernement pour cacher des prophètes, pour les avertir. Sa position était délicate. Parce que d'un côté, au gouvernement, il était tout près du roi et de la reine méchant. Et d'un autre côté, il essayait de cacher les prophètes parce qu'il était un croyant. Il avait trouvé une grotte et il les avait cachés en deux groupes. Et il avait en cachette organisé qu'on leur apporte régulièrement du pain et de l'eau. Il rencontre Élie et lui raconte ça. Et Élie lui dit, on va maintenant faire un test une épreuve entre les prophètes de Baal et l'Éternel. Il dit à Abdias, j'aimerais rencontrer Akab pour lui dire ça.
Et Abdias
lui dit, mais tu vas te faire tuer. Mais Eli avait cette conscience de Dieu qu'il fallait voir Akab et lui parler. Il avait une grande confiance en Dieu. Alors cette rencontre est organisée. C'est Akab qui va venir vers Eli. Et nous lisons qu'est-ce qu'il va dire au chapitre 18, toujours versets 17 à 20.
Mon vers soit comme un mot de quatre chapitres, soit comme un mot de quatre tout le monde chaque année y croit en bas.
Alors il dit, le roi, et c'est incroyable, il dit, c'est Élie qui trouble Israël. Et Eli lui répond courageusement. Il est devant le roi. Il dit, non, c'est toi qui trouble Israël. Parce que vous avez abandonné la loi de l'Éternel. Vous avez suivi les Baals, les idoles. Alors il lui dit, maintenant on va voir qui est vraiment Dieu. Est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est Dieu?
Baal, Agni, Nzambi.
Il dit, allons à la montagne du Carmel. La montagne du Carmel, ça se situe ici.
Très
loin de la capitale. Et proche de la mer Méditerranée. Il dit, allons sur cette montagne et amène tous les prophètes. Donc les prophètes officiels maintenant du gouvernement.
Sont
des faux prophètes idolâtres. Nous avons lu qu'il y a 400 prophètes. 450
prophètes de Baal.
En plus, il y a 400 prophètes des Achères. Les Achères, c'était l'idolâtrie à Sidon. C'était les principales idoles, Baal et les Achères, les principales idoles de la Phénicie, du Liban.
Et
nous voyons que régulièrement, ils mangeaient à la table de la reine. Dans le palais de Akab, il y avait une immense salle à manger. Vous imaginez, il y a ici 850 prophètes
idolâtres.
Nous ne savons pas s'ils étaient chaque jour là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde idolâtre à la table de la reine
Jézabel.
Eli leur dit maintenant, venez, on va faire un test sur la montagne.
Et
ça va être quelque chose de très spécial. Lisons-le.
Versets
23-24. Pardon, depuis le verset, d'abord le verset 21, tout ça.
Anusha bajumana mukoko.
Wakapa pongane. nuluwenda nuzobela pakati panseke izizi musangule munye tikale po wanzambi nomulonde kajibikala bala nzambi nomulonde bantu baka mukujumuna.
Alors Élie a organisé que beaucoup de monde du peuple d'Israël est venu là. Peut-être plusieurs milliers de personnes qui voulaient voir qu'est-ce qui allait se passer.
Et
il y a les prophètes de
Baal.
Ils sont aussi là. Élie va leur dire maintenant, mais qu'est-ce que vous faites? Combien de temps allez-vous hésiter entre les deux?
Ou bien il
faut suivre Dieu, ou bien il faut suivre Baal, mais pas les deux en même
temps. Ça
montre que le peuple d'Israël n'était pas très à l'aise de suivre les
Baals. Il n'était
pas ouvertement contre Dieu.
Mais
il restait aussi, il tolérait Baal et il suivait en même temps les
idoles. Maintenant
il dit au peuple, maintenant il faut vous décider.
Alors
pour le peuple c'est délicat puisque le roi et la reine ils sont pour Baal et le prophète qui est isolé il est pour Dieu.
Et le
peuple ne répond rien.
Est-ce
que cela peut être des fois des situations de croyants? Nous avons des choses dans nos vies qui prennent beaucoup d'importance, des choses du
monde. Mais nous voulons
suivre Dieu en même temps. Peut-être que l'argent a beaucoup d'importance, ou peut-être que des affections pas justes aussi de l'importance.
Il y a
beaucoup de possibilités que l'ennemi peut nous donner des
tentations.
Mais d'un autre côté, nous voulons suivre Dieu aussi parce que nous sommes croyants. Alors cette parole de nous décider pour le Seigneur est aussi pour nous. Maintenant, Élie va organiser deux
taureaux.
Un taureau, c'est lui qui va le préparer pour l'offrir en holocauste.
Et
l'autre, ce sont les prophètes de Baal qui vont
organiser. Et lisons les
versets 23-24. Alors, Élie dit, on ne va pas le mettre le feu
nous-mêmes.
Pour cuire le taureau, pour l'offrir en
holocauste.
On va prier. Moi je prie Dieu, vous priez Baal.
Et
on verra qui c'est qui va envoyer le feu.
Et
le peuple il a dit, c'est une bonne idée, comme ça on
verra. Alors
les prophètes de Baal, ils commencent. Et là, nous voyons un peu les cérémonies, un peu de sorcellerie, d'idolâtrie qu'il faisait.
On voit même
qu'ils se font des coupures dans la peau. Alors que Dieu défendait de faire des trous dans la peau.
Mais
c'est une caractéristique de l'idolâtrie, de faire des incisions dans la
peau.
Et en même temps, Élie, il se moque de ses prophètes parce que le feu ne vient pas. Ils crient, ils font beaucoup de bruit pour appeler Baal, mais il n'y a pas de feu qui
vient.
Élie, il se moque, il dit, mais peut-être qu'il est en train de dormir, Baal, il faut crier plus fort. Ça ne vous rappelle pas certains qui crient tellement fort, ils pensent que Dieu
l'entend.
Et il va se moquer en disant, mais peut-être qu'il est allé faire un voyage. Lisons les versets 26 à 29. Alors là, nous reconnaissons les cérémonies païennes et idolâtres. Beaucoup de bruit, ils sautent et ils se font de brutalité. Mais ça n'a pas de résultat. Maintenant vient le tour de Élie.
Et
on ne va pas tout lire, mais vous pouvez lire
pour vous,
c'est très intéressant. Il va demander d'apporter de l'eau. Vous imaginez, il y avait presque plus d'eau dans le pays. Il va demander 3 seaux d'eau. Il va le verser sur son taureau à
lui.
C'est donc encore plus difficile de le brûler. Et après, il dit au peuple, venez plus près de moi. Il a mis sur un autel, le taureau sur un autel de 12 pièces. C'est intéressant parce qu'il symbolise l'unité d'Israël. Même si l'unité d'Israël n'est pas réelle puisqu'elle est divisée en deux parties. Ça nous parle aussi à nous. L'unité de l'Église, on ne la voit pas, il y a beaucoup de divisions. Mais nous pouvons quand même donner un témoignage à l'unité du corps de Christ. Quand nous partageons le pain de la scène entre nous, même s'il y a beaucoup d'églises divisées, c'est bien de rappeler qu'aux yeux de Dieu, L'église est un comme un seul pain. Comme un seul corps. Alors quel est le résultat de la prière d'Élie? Nous le voyons prier au verset 37. Nous pouvons lire les versets
37 à 39. Nous le voyons prier au verset 37 à 39.
Umungwile wabantu ababa manjene, wewe, Yehowa kujinzambi, le wewe, waka kujimusha mitima yabo kabidi. Pashise, kateka Yehowa kakapona, panshi, kakosha mulambu, ne mpuni, ne mabwe, ne mpwe Kenya, ne kakaka misha, mai akaji mutubu.
Nous voyons donc que Dieu a tout de suite répondu à la prière d'Élie. Le feu du ciel est venu sur le taureau. Avec une grande puissance, même l'eau a disparu. Et finalement, le peuple reconnaît que c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Nous n'allons pas lire la suite, mais à ce moment-là, Élie, il dit, il faut maintenant purifier Israël de ses prophètes de Baal.
Et
ils vont les tuer là, un peu plus bas, près d'une petite rivière.
Et
puis, ensuite, il va prier pour que la pluie revienne. Il y a eu symboliquement une purification de ce mal qui était en Israël.
Et
Dieu va répondre avec une pluie de bénédiction. Une forte pluie va arriver. Mais nous remarquons que Jézabel n'est pas là. Est-ce qu'elle avait méprisé cela? On ne sait pas. Mais en tout cas, quand elle a appris qu'ils ont égorgé tous ces prophètes, elle s'est mise dans une grande colère. Et elle a dit maintenant, dans l'espace d'une journée, je vais tuer Élie. Et il va envoyer du monde à sa recherche. Et nous lisons maintenant chapitre 19, versets 3 et 4.
Wanguloba wa Yuda wakashi yaku mungu wandi katie yenka yandi wakaya lwendu lwa jitu kujumwe mchipela wakashi kama panshi mungu wa jene wakalo manzambi wakufwa ye wamane wakushika mbingyeu. Yehowa anate moyo wanyi, waluwa neno tena mupite batatu banyi wakane.
Nous voyons ici que Élie apprend cela.
Apa, Élie wakaji komanyo bwalu ap.
Alors il craint pour sa vie.
Yeyi wakaji bien nubo bo moyo wende.
Et il va marcher une très grande distance.
Yeyi wakaji kwenda lwendu lule.
J'étais donc au mont Carmel par ici. Il va marcher jusqu'à Beersheba. Beersheba, c'est la ville frontière sud d'Israël. Quelques jours, il n'arrête pas de marcher.
Et puis il laisse celui qui les aide à cet endroit et il continue dans la montagne du Sinaï. C'est la montagne d'Horeb. Où Dieu s'était révélé à Moïse. Et là, il va monter dans cette montagne.
Il est très découragé.
Et puis nous voyons cette prière qu'il fait à Dieu, il lui demande de le
reprendre. Alors
nous voyons que Élie est passé d'une grande victoire à un grand découragement. Il a marché 40 jours, il doit être très fatigué. Dans le désert, en plus, il n'y a rien à manger. Ce qu'il avait peut-être pris pour le voyage, c'est terminé depuis un moment. Mais Dieu ne l'oublie pas. Malheureusement, le peuple ne prend pas sa défense.
Et
cette reine Jézabel est furieuse. Cela nous parle aussi lorsque nous avons un combat victorieux avec le Seigneur. Il faut être très prudent. Ne pas se sentir fort. Parce que peut-être que l'ennemi va nous attaquer encore plus. Et nous risquons un découragement subi. Comme Élie. Alors veillons et soyons sur nos gardes aussi. Mais Dieu n'oublie pas Élie comme il ne nous oublie pas. Lisons le verset 6. Chapitre 19, verset 6.
Verset 6.
Donc Élie s'est endormi, complètement découragé et fatigué. Et le frère Michel nous a parlé de la, des anges ce matin. C'est un ange qui est envoyé par Dieu et qui lui prépare quelque chose à manger et à boire. Il touche Élie et le réveille. Élie regarde, il ne voit pas l'ange. Mais il voit la bonté de Dieu. Un gâteau qui est déjà tout prêt
pour lui.
Et une cruche avec de l'eau. Alors il a repris des forces. Mais il a toujours beaucoup de fatigue et il va redormir. Puis cela va continuer. Et puis il reçoit des encouragements de la part de Dieu. Nous n'allons pas lire tous les détails. Nous allons lire les versets
15
à 18.
Ah,
Alors, Élie, à la montagne, juste avant, a reçu des encouragements de Dieu, en sorte qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, il y a eu beaucoup de choses terribles, là, dans cette montagne.
Mais
l'Éternel n'était pas dans ces tempêtes, dans ces rochers, dans ces tremblements de terre. Mais après, il y a une voix douce et subtile. Et Élie a compris que c'est Dieu qui arrivait. Il s'est, dans la caverne où il était, il s'est mis à l'entrée et s'est enveloppé d'un manteau.
Et
il a eu une révélation de la présence de Dieu qui l'a encouragé beaucoup.
Et
c'est aussi encourageant pour nous de voir que Dieu était là avec cette voix douce et subtile.
Et
dans les derniers versets que nous avons lus,
Dieu
lui donne la suite de sa mission. Il y a trois choses. Il doit oindre Hazael, le roi de Syrie. Il va être un roi très méchant contre Israël. Que Dieu va utiliser pour punir Israël. Israël avait vu ce grand miracle avec les prophètes de Baal. Mais ça ne va pas changer beaucoup dans leur vie. Ensuite, il devra oindre Jéhu. Pour lui signifier que plus tard il devra venir roi d'Israël. Et plus tard c'est un roi que Dieu va utiliser pour éliminer cette terrible maison de Akab. Avec cette famille idolâtre. Et troisièmement, il devra aussi montrer à Élisée qu'il deviendra prophète après lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Et demain, Dieu voulant, eh bien, nous continuerons avec cette histoire de Élie et du roi Akab.
Et
nous verrons aussi le ministère de Élisée, un grand prophète. Toi, ça qui dit là.
Merci. Ok, si tu tournes, il y a toi qui dit là.